jeux vidéo, actualité de vos jeux préférés.
Salut à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 17 mai 2018, vous écoutez Evason Studio et vous êtes dans l'émission jeux vidéo et bizarrement, étrangement, ça parle de jeux vidéo. Je suis avec Yakipon.
Salut.
Au sommaire cette semaine, on va faire un focus Blizzard, un focus LOL et un focus plus général concernant les D&D et la Switch, c'est-à-dire Heroes of the Storm, Overwatch, League of Legends, Okami, Dead Cells, Crash Bandicoot Insane Trilogy, Rocket League, Hollow Knight, Minecraft, Octopath Traveler et bien sûr les sorties jeux vidéo de la semaine. Commençons par ce fameux focus Battle.net avec plein de news surtout concernant Overwatch et Heroes of the Storm.
Oui, alors je vais prendre la main si tu veux bien, Jean-Yves. Alors tout d'abord, on a une vidéo de notre cher Jeff Kaplan, hein, le fameux dev d'Overwatch que je ne supporte pas, mais bon, ça reste qu'un avis personnel. Alors qu'est-ce qu'il nous dit le petit bonhomme ? Le petit bonhomme nous dit que l'événement anniversaire commencera le 22 mai, donc on va dire déjà la semaine prochaine, mardi si je dis pas de bêtises. Alors j'aime beaucoup le mode anniversaire. Parce que bon, ben voilà, ça fait quand même 2 ans qu'Overwatch est sorti. Il y a eu beaucoup de choses. J'aime bien voir, on va dire, le recap de tout ce qui s'est passé. Ça fait toujours plaisir. Bon, même s'il y a eu des nerfs et des buffs de personnages qu'on voulait pas forcément, ça c'est pas de notre sort, mais il s'est passé quand même beaucoup de choses dans le monde d'Overwatch. Alors, tout d'abord, pour être, on va dire, assez rapide là-dessus, il y aura une nouvelle map concernant le match combat à mort chacun pour soi qui sera la map Petra. Je vous laisse découvrir. Des infos un peu partout, ça n'a pas l'air mauvais. En soi, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a aussi la nouvelle première saison compétitive de combat à mort chacun pour soi. Ils ont fait, on va dire, le 6v6 élimination. Bon, ben maintenant, ils font le chacun pour sa gueule. Ça reste dans leur logique, je sais pas si... C'est... Bon, en vrai, si, ça peut fonctionner, mais je trouve qu'on va voir beaucoup trop de chacals, parce que c'est beaucoup trop fort en chacun pour soi, des fatales, des Hanzo, enfin, tous les trucs qui one-shot. Après, bon, ben c'est le style de jeu qui veut ça, hein, mais bon. Ça restera, on va dire, normal. Concernant les loots, parce qu'évidemment, qui dit nouvel événement, dit nouveau coffre anniversaire légendaire. Donc, on aura un super coffre assez sympathique. Par contre, dans les coffres anniversaires légendaires, ces coffres-là peuvent contenir des objets des événements passés. C'est-à-dire, par exemple, tout ce qui concernait Halloween, ou Noël, ou tout et n'importe quoi. Donc, je sais pas s'ils seront valables à la vente aussi. Qu'on puisse acheter, par exemple, le skin May qu'on n'a pas eu à Noël. C'est encore à voir, j'ai pas trop d'infos, je pense qu'on vous dira ça la semaine prochaine. Il paraît aussi que les chocs et missions précédents sont de retour. Alors bon, je vous laisse poser votre avis là-dessus, parce que je vais être franc avec vous, je n'ai pas compris cette phrase, tout simplement. Je ne sais pas ce que sont les chocs et les missions précédentes qui seront de retour. C'est une info qu'on a, j'ai pas d'autres infos là-dessus, hein, je suis désolé, hein, c'est tout ce qui a été leaké pour l'instant. Donc je ne sais pas, si quelqu'un peut éclairer ma lanterne dans les commentaires, moi je veux bien. Des nouveaux objets ornementaux à collectionner, évidemment, pour le deuxième anniversaire, donc des nouveaux skins, des nouveaux tags, beaucoup de choses. Et donc voilà, à peu près, on va dire, sur cet event. Qu'est-ce que j'ai à rajouter de plus ? Dernièrement, sur Overwatch, on a eu un nouveau skin qui est sorti, un skin qui s'appelle Pink Mercy, et je trouve que ça a été bien et pas bien. En gros, ça fait 2 ans, on va dire, que Overwatch engrange beaucoup de la monnaie, parce que c'est bien d'acheter le jeu déjà, c'est presque 40-60 euros. Je parle de 60 quand il est sorti, évidemment. Que les skins coûtent cher et que certains achètent des coffres, enfin, bon, beaucoup de choses. Et ils se sont dit, bon, là, par contre, ce skin-là, tout l'argent, ou la moitié, je sais pas comment ils ont géré ça, part pour la lutte contre le cancer du sein. Alors, en gros, c'est une bonne idée, vraiment, hein, de faire des trucs un peu communautaires, comme ça, d'utiliser, on va dire, des joueurs pour acheter des skins qui sont, bon, on se l'accorde, il est pas très moche, hein, il est assez sympathique. Mais je sais pas, c'est comment ils en ont fait l'espèce de pub, c'était assez bizarre. En plus, si on voulait débloquer des tags et des choses assez spéciales, il fallait qu'on se mate 6 heures de stream sur Twitch, avec une chaîne évidemment qui profite de ces bonus-là, de pouvoir nous donner du contenu en jeu. Je sais pas si c'est une bonne idée, genre regarder des gens jouer à Overwatch pour gagner des trucs concernant la lutte contre le cancer du sein. Enfin, tout est mélangé, j'ai trouvé ça un peu bazar et un peu bizarre aussi. Le skin coûte, et coûtait, je sais pas s'ils l'ont enlevé, 15 euros. Donc bon, c'est, je trouve que c'est, on va dire, une bonne participation. Si tout va exactement pour le cancer du sein, je trouve ça bien. Si Overwatch s'en prend une partie, genre la moitié, je trouve ça complètement dégueulasse.
Bon, pour ta confirmation, ils versent l'intégralité des 15 euros à la recherche contre le cancer.
Ok, donc c'est une bonne chose. Donc voilà, tout pour Overwatch.
Et du coup, on peut leur dire merci, merci. Voilà, c'est tout.
Je suis très déçu. Tu me déçois de plus en plus.
Désolé.
Ah, bon, je vais quand même garder la main pour parler un petit peu de Heroes of the Storm, parce qu'il y a du changement qui va arriver. Donc on a eu deux vidéos concernant deux personnages, on va dire, emblématiques, oui ou non, de Heroes of the Storm. Il s'agit de Diablo et de Luna. En gros, ils veulent refaire les persos. Alors qu'ils refassent Diablo, je sais pas, parce que il y a des changements, genre, qui va pouvoir tanker beaucoup plus, sachant que c'est quand même un sacré tank. Ça me fait chier. J'ai pas d'autres mots. C'est... Diablo, c'est fort, juste maintenant, et ils veulent le rendre encore plus fort sur le fait de ses dégâts, sachant qu'il colle beaucoup. Et bon, après, c'est un nouveau gameplay, je vous l'accorde, qui semble beaucoup plus accrocheur, ça donne plus envie de jouer Diablo. Mais le fait qu'il puisse résister beaucoup plus, qu'il puisse démonter la tronche de tout le monde, on va dire, assez vite, ben, faudra voir en fait en jeu ce que ça donne. Évidemment, c'était qu'un preview. Bon, en gros, je sais pas quoi penser du rework de Diablo, vraiment. Pour celui de Lunara, il y a 2-3 choses qui changent, surtout concernant sa sentinelle, qui est quand même un des sorts des plus utiles, vu que ça donne beaucoup de vision, et bien là, ça va être complètement refait. C'est-à-dire que la balise, on va dire, de vision, on pourra grossir et voir, on va dire, beaucoup plus sur la map, ce qui est plutôt pas mal, hein, en soi. Il y a 2-3 changements aussi sur son poison, tout ça, mais je vous laisse regarder les modifications et les vidéos de Heroes of the Storm sur YouTube. Il y a pas mal d'explications. Et surtout, bah, pour Lunara, je trouve que c'est pas si mal. On verra ce que ça donne, évidemment. Beaucoup plus tard, on vous en parlera, comme toutes les semaines, évidemment. Autre chose aussi qui va arriver sur Heroes of the Storm, c'est la Nexomania. Je sais pas trop quoi en penser. Il y en a qui disent c'est du génie. Il y en a qui disent bon, bah c'est quand même assez particulier.
Ah, c'est du génie.
En gros, hein ?
Ah, c'est du génie.
Non, c'est pas
ah,
du
si.
Génie.
Ah, si, si.
Ah non. En gros, pour vous expliquer, ils mélangent le monde du catch avec Heroes of the Storm. Donc, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec une nouvelle thématique de skin du catch. Donc, on a Diablo dans un slip très moulant. Hein, de catcheur, évidemment. On a Garrosh avec une chaise, parce que, ben oui, le catch sans les chaises, ben, ça fonctionne pas. On a Lunara en mode je suis une catcheuse avec beaucoup de lumière sur le corps. Et Sonia qui ressemble strictement à rien. On dirait une catcheuse chat, on dirait Catwoman sous stéroïde, en fait. C'est particulier, c'est pas très beau, hein, moi, je trouve ça vraiment dégueulasse. La nouvelle monture est un espèce de chihuahua avec un masque de catcheur. C'est immonde. Sans
le
déconner.
Slip rose à sa mémère, quoi.
De quoi ?
Son masque.
Bah, ah bon ?
Non, mais c'est la comparaison, quoi. Il est affreux.
Ah oui, bon, ben ça... Il est vraiment dégueulasse, on est d'accord. Après, il y a un espèce de sanglier piñata, qui est pas mauvais. Ça, encore, je peux comprendre l'univers, vu que, bon, on tourne sur quelque chose, on va dire, de très mexicain, hein. Tant pis, c'est assumé, apparemment. Il y a un nouvel annonceur, aussi, qui s'appelle El Guapo, qui parlera, ben, 100% espagnol, je pense, ou mexicain, enfin, c'est vous qui voyez, je pense que c'est particulier, en soi. Ça peut être marrant, pour les 3 premières games, mais après, je pense que ça peut très vite saouler. Donc, ouais, quelque chose d'assez mexicain, de très catch, hein, en soi. Il y a 2-3 skins aussi qui vont arriver concernant ETC aussi, on dirait ETC Prince, je sais pas, c'est un peu bizarre. Et comme je vous l'ai dit, oui, une monture piñata sanglier qui est pas si laide. Bon, j'aime bien, on va dire. Voilà, c'était, on va dire, mon point sur Heroes of the Storm. J'ai un peu de mal, je vous l'accorde.
Tu restes chez les MOBA, en parlant de League of Legends, ça pique un peu apparemment.
Décidément, je vais parler tout le long. Alors, ça pique et ça pique pas. Le truc est que, pour l'instant... Ah, ça pique, ok, je viens de comprendre. Je viens de comprendre parce qu'évidemment, il y a un nouveau... Tu m'énerves. On a reçu le gameplay de Pyke, et donc pas Pique, s'il te plaît. Donc, Pyke, qui est un mec qui s'est noyé apparemment, et que Miss Fortune, en fait, tous les pirates l'ont laissé dans la merde. Donc maintenant, il veut se venger. En gros, son histoire, c'est à peu près ça. J'ai dit à peu près, hein, parce que, évidemment, j'arrondis les angles, même si, bon, on parle d'un mec qui vient de se noyard, on dirait les angles, c'est particulier. Donc on a, on va dire, son set de mouvements, on va dire ça en français, ça va être plus sympa. Donc il a une compétence passive, lorsque Pike n'est pas vu par ses ennemis, il regagne rapidement une partie des PV récemment perdus contre des champions ennemis. Donc ça c'est pas mal, on dirait un truc à la Garen, et ça force, on va dire, de rentrer dans les bouches, ou de vraiment perdre la vision des gens, parce que tu régènes ta vie. Mais quand je dis on régène sa vie, c'est beaucoup. C'est pas mal quand même, hein. C'est assez impressionnant. Et évidemment, Pike peut aussi convertir également ses PV supplémentaires en dégâts d'attaque supplémentaires. Donc ça risque de piquer un tout petit peu. Badoumts. Concernant son A, qui s'appelle Harponnage, ben vous l'aurez compris, c'est pas très compliqué. Pike poignarde et ralentit grandement tous les ennemis devant lui si le lancement du sort est immédiat. Par contre, si la touche est maintenue, Pike se prépare puis lance son harpon en palant le premier ennemi touché avant de l'attirer vers lui sur une distance fixe. Donc ça, c'est plutôt fort, j'ai envie de dire. Ça ressemble à un grab à la trèche, sauf que ça dure moins longtemps et que c'est quand même à très bonne portée, faut le dire. Le Z, la plongée spectrale. Pike plonge dans les eaux spectrales, se camouflant et augmentant de façon significative sa vitesse de déplacement. Le bonus se dissipe en quelques secondes, mais bon, ça reste quand même assez impressionnant. Quand Pike est camouflé, les champions ennemis hors de son rayon de détection ne peuvent pas le voir. Attaquer ou lancer un sort met immédiatement fin au camouflage. C'est un camouflage à la Evelyn. C'est-à-dire que vous aurez une indication d'un œil au-dessus de vous, comme si vous voyez Evelyn très proche de vous, ou pas du tout, tout simplement. Le E, qui est le Ressac Fantôme, Pike fonce dans une direction, laissant derrière lui un fantôme de noyé. Après un délai, le fantôme retourne vers Pike, blessant et étourdissant les ennemis qu'il traverse. Alors, c'est assez cool comme mouvement, parce que si vous bénéficiez par exemple d'un flash après avoir lancé le sort, le noyé reviendra vers vous quoi qu'il arrive. Donc, même si vous êtes éjecté à Babelwed et que vous avez lancé ce sort avant, le fantôme fera aussi le même mouvement jusqu'à Babelwed. Ça peut permettre beaucoup de gameplay intéressant, c'est-à-dire de flasher derrière quelqu'un pour forcément le stun, ou alors de dasher, et sur le coup, de vouloir choper par exemple le support qui est derrière en flashant et en l'étourdissant. Je pense qu'il y aura beaucoup de gameplay qui va se jouer là-dessus, parce que c'est quand même fort, hein, un contrôle de foule, hein, on est tous d'accord là-dessus. Et enfin, son ultime, qui est l'exécution abyssale, c'est la mort vient d'en dessous, en fait, parce qu'ils n'avaient pas le droit de prendre la mort vient d'en haut, je pense. En fait, Pike frappe dans une zone en forme de X, mais genre vraiment, qui bondit en fait sur les champions en exécutant son dont les PV sont inférieurs à un montant fixe. C'est, on va dire, un peu comme Cho'Gall, sauf que c'est en X, donc déjà, ça fait beaucoup plus de dégâts. Et évidemment, lorsqu'un champion meurt dans la zone en X, le dernier allié à avoir obtenu une assistance sur cette élimination reçoit également la totalité des PO. Donc ça, c'est plutôt très très fort. Le fait que, si vous jouez avec un support, le support va recevoir moult argent. Et il sera très content. On aime beaucoup les supports avec moult argent. De plus, Pike peut instantanément réutiliser exécution abyssale pendant la courte période. En fait, c'est comme Darius. C'est si vous tuez avec cette ulti, vous pouvez retuer les gens en masse. Et donc, les gens qui font des assises deviennent riches. Et donc, c'est drôle. Bon, je sais pas ce que ça va donner en vrai dans le jeu, mais bon, pour l'instant, ça a l'air pas trop mal. J'ai autre chose à vous dire sur League of Legends. Alors, apparemment, il y a un mode Clash qui arrive. Le mode Clash, on en avait discuté il y a un petit moment, c'est un mode tournoi qui sera disponible pour tous. Apparemment, c'est disponible toutes les deux semaines pendant 3 jours, et c'est vraiment un mode tournoi comme si vous y étiez. C'est-à-dire, faut pas être AFK, faut pas faire ci, faut pas avoir des smurfs, faut pas faire ça. Il y aura beaucoup de règles, je peux les comprendre, hein. Les gens n'ont pas forcément envie de jouer avec des smurfs ou quoi que ce soit. Donc, il y aura beaucoup de contrôle, il y aura beaucoup de choses à valider, de dire attention, oui, mais nous on fait ci, nous on fait ça. Ça peut être des tournois, on va dire random, ça peut être des tournois du village. C'est vous en fait qui gérez votre propre merde, hein, pour être, on va dire, cru dans le langage. Donc en soi, c'est pas si mauvais, sachant qu'il y a des récompenses à la clé qui sont exclusives, on va dire, au mode. Il y a beaucoup de choses à faire. Je vous propose de regarder les vidéos explicatives en français, elles y sont, parce que il y a beaucoup de choses en plus. Apparemment, c'est rien comparé à tout ce qu'ils veulent nous montrer. Donc en mode, on va dire, de tournoi, bon, c'est pas mal en vrai. On n'est pas obligé maintenant de passer par Riot en leur disant oui, s'il vous plaît, on veut faire un tournoi là-bas, donc vous pouvez nous filer le test serveur, gna gna gna. Bon, chacun pourra faire ce qu'il veut quand il veut, donc chacun sa merde et tout le monde est content. Concernant les plus gros points de la patch note 8.10, vraiment très rapidement, Bard est buffé, Poppy est buffé, Dr Mundo est nerfé, Sion est nerfé. Par contre, il y a des ajustements sur Zac, parce qu'apparemment, soit il y a des bugs, soit il y a y a vraiment un truc qui va pas chez le pauvre Zach. Il y a aussi un ajustement sur la rune bleue concernant l'item de jungler, à voir ce qu'ils ont fait dessus. Aussi, il y aura 3 nouveaux skins, Pulse Fire Shen, Pulse Fire Riven et Pulse Fire Twisted Fate. Alors, celui de Twisted Fate, j'ai trouvé assez rigolo, parce qu'avec son espèce de petit chapeau melon, il est assez... Je sais pas, je trouve qu'il est assez stylé. Et Shen, pour une fois qu'on voit son visage, on va dire complètement, bah je trouve que le skin n'est pas si mauvais en soi. Bon, Riven, je la déteste depuis le jour 1 qu'elle est arrivée, donc j'ai pas trop à dire dessus, sachant que, je sais pas, je la trouve laide, on dirait une espèce de Diana refaite laide, tout simplement. Je suis assez gentil avec Riven, je pense que j'ai peut-être des soucis avec cette madame. Et pour une fois, bah en fait, je vais te laisser parler, en fait.
Je reprends la main, et je vais essayer d'être bref, rapide, concernant plein de choses. Je commence avec une news qui concerne Okami, et plus précisément Okami HD. Donc Okami, c'est l'histoire de ce loup japonais, donc un jeu rétro sorti à l'époque de la PS2, qui est ressorti en HD il n'y a pas si longtemps que ça sur Steam, et on sait qu'il va sortir sur Nintendo Switch. Ça y est, hein, ça a été confirmé, Capcom l'a validé. On a quelques premières images de la Nintendo Switch. Ce qu'on apprend, c'est que Okami HD va clairement tirer profit de l'écran tactile de la Switch et de la détection des mouvements de Joy-Con. Ça veut dire qu'on pourra jouer directement sur le tactile ou en bougeant les Joy-Con sur la télé. Ça, il n'y a aucun problème, ils l'ont dit, normalement, ça ne devrait pas poser de soucis. L'autre nouvelle qui concerne Okami HD, c'est qu'il y aura 2 différentes éditions du jeu qui vont sortir, en tout cas pour le moment au Japon. Il y aura une version physique classique pour à peu près 3000 yens, ça correspond à peu près 23 €, ce qui est très peu cher, hein, clairement pour Okami HD, je l'aurais estimé à 30 € personnellement. Donc dans une édition limitée, donc ça embarque une illustration, un CD avec 22 pistes musicales, etc. etc. Mais aussi on va trouver une édition très 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 collector qui est estimée à 26 000 yens, donc à peu près 200 €. Alors est-ce que ça va sortir aussi la même chose en Occident, en Europe? Donc on sait pas, ça on peut spéculer là-dessus. La seule chose, c'est que cette édition collector d'Okami est juste magnifique, vraiment. Donc on a le jeu, on a tout ce qui a été dit avant, on a une pochette pour protéger la Switch avec une espèce de fausse fourrure toute douce, toute mignonne, on a un pendentif, on a un CD, on a un artbook, on a plein de choses. C'est vraiment, je pense que c'est le jeu, enfin l'édition collector de vraiment la plus magnifique que j'ai jamais vue pour le moment. Donc voilà, date de sortie de Okami HD sur Nintendo Switch, le 9 août partout dans le monde. Voilà, donc on suppose avoir des news concernant ces sorties en Europe, en tout cas pour les détails de ces éditions, dans pas longtemps. On reste informé là-dessus. On va parler maintenant de Dead Cells. Alors Dead Cells, on vous en parle régulièrement, hein, c'est un jeu gros coup de cœur par chez nous, d'autant qu'en plus il est français. On sait que plus de 730 000 exemplaires ont été vendus de Dead Cells sur son Early Access, que Motion Twin, les développeurs, sont toujours à fond sur le développement du jeu, ils nous postent des news régulièrement, il n'y a aucun problème là-dessus. Le jeu va sortir officiellement le 31 août prochain sur tous les supports, c'est-à-dire qu'il va sortir officiellement sur PC, Steam, Xbox, PS4 et Nintendo Switch. Il va bien sortir sur Nintendo Switch. Est-ce qu'il va y avoir une version physique? La réponse est très sûrement. Alors c'est pas encore validé, mais les développeurs font tout pour sortir une édition physique, parce que beaucoup de fans leur demandent, sortez une version physique. Voilà, donc ils vont faire tout leur possible pour le faire, et je suppose que ça va se faire aussi. Dès que ça se fera, ça sera du insta-buy, et je pense que côté Yakipon, il y a des chances que ça se fasse aussi.
Non.
Ok, donc sur cette note d'ironie, parlons de Hollow Knight, parlons d'un sujet qui est à peu près similaire. La Team Cherry, les développeurs de Hollow Knight, annoncent que la version Switch est très proche, elle est bientôt prête, et que là, pareil, ils vont faire tout leur possible pour sortir une édition physique, voire même une édition collector. Ce qu'on sait de plus, c'est que le jeu tournera en 60 FPS sur la Switch, et ça, c'est validé, et ça, on est très content. Voilà ce que j'avais à dire pour Hollow Knight. Concernant un jeu qui n'est pas indépendant, Crash Bandicoot Insane Trilogy. Donc le jeu est déjà sorti il y a un an sur PS4, ils avaient l'exclusivité. Il est sorti, il va sortir dans pas longtemps sur Steam et compagnie. Mais il sort aussi sur la Switch. Il sort précisément le 29 juin prochain sur la Switch, au lieu du 10 juillet. La sortie a été avancée, et ça c'est une très bonne nouvelle, c'est rare qu'on voit des jeux avancés. Crash Bandicoot Insane Trilogy, pour le rappel, c'est le remake de Crash Bandicoot 1, 2 et 3. Donc c'est un jeu qui comprend 3 jeux en fait. Voilà, ce qu'on sait sur ce jeu, c'est que sur la Switch, Crash Bandicoot Insane Trilogy ne pèsera que 5,2 gigas. Alors pour un jeu rétro avec 3 jeux, on peut se dire ouais c'est beaucoup, mais en fait non, ça va. À titre de comparaison, la version PS4 nécessitait environ 20 gigas. Donc on voit qu'il a été beaucoup plus optimisé pour la Switch au final. Donc voilà, 29 juin prochain, Crash Bandicoot sur la Switch. Et je vais sur du Rocket League. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Rocket League, et pourtant le jeu continue à faire un énorme succès. Il continue à le mettre à jour, à le corriger, à implémenter des contenus en plus, que ce soit des contenus juste du skin ou de nouveaux véhicules. Donc Psyonix, les développeurs s'amusent avec leur communauté. Alors là, on peut pas leur dire que la communication c'est pas leur fort. Ce qu'on sait, c'est que au courant de cet été là qui arrive, on va redécouvrir le jeu. En tout cas, c'est ce qu'ils annoncent, parce que Psyonix va lancer une mise à jour importante qui va s'appeler le Rocket Pass. Donc on va progresser dans le Rocket Pass, on va augmenter notre niveau, et en plus on va débloquer du contenu unique au fur et à mesure de notre progression. Ça c'est nouveau. Chaque Rocket Pass va durer quelques mois avant que ce soit retiré, et ensuite un nouveau pass prendra sa place avec un nouveau contenu à débloquer. En gros, c'est plus on joue régulièrement, plus on a des récompenses inédites sur une période, et sur une autre période, on aura d'autres récompenses inédites. Donc en gros, si une fois qu'on les rate, on les rate. Hein. Le Rocket Pass aura deux versions, une gratuite et une premium, donc pour que tout le monde puisse avoir un peu ce qu'il veut. La version gratuite aura des nouveaux objets cosmétiques ainsi que des décrypteurs et des titres exclusifs, tandis que la version premium aura un coût fixe pour tout débloquer. Je pense que c'est ça qu'ils veulent dire. Donc voilà, sachant qu'on pourra prévisualiser les contenus inédits avant d'acheter cette version premium. Ce qu'ils nous annoncent aussi, c'est un nouveau système de cross-platform, un petit peu plus optimisé, avec une sorte de, on va appeler ça le Rocket League tag en fait, c'est juste un nom avec un dièse et un code, un peu comme votre tag Battle.net, sauf que là c'est vraiment il y a une sorte de tag, un ID pour Rocket League, et ce sera beaucoup plus simple d'ajouter ses amis, peu importe la plateforme, pour jouer tous ensemble, pour que le jeu soit vraiment cross-plateforme de partout. Voilà pour Rocket League. Qu'est-ce que j'avais à dire d'autre? Du Minecraft. Je crois que ça faisait un moment qu'on n'a pas parlé de Minecraft. La dernière fois qu'on vous en avait parlé, c'était pour cette update aquatique, et on sait que le update aquatique a été publié hier, donc le 16 mai, sur plusieurs plateformes, en tout cas en bonne partie. Donc ce qui a été expliqué, c'est que les joueurs sur PC, Xbox One, iOS et Android peuvent télécharger depuis hier cette mise à jour. Les développeurs donc ont coupé cette update en deux, et on peut déjà voir dès maintenant là le monde sous-marin, les trésors enfouis, les petits poissons, et plus tard on aura du contenu supplémentaire qui va arriver donc avec l'autre partie. D'autres supports de jeu donc suivront, y compris les consoles d'ancienne génération, donc PS3 et compagnie, qui accueilleront alors leur dernière mise à jour. Voilà. Et une autre news, Minecraft, tant qu'à faire. Concernant la Switch, on avait un jeu Minecraft qui était sorti sur Switch, il y a un petit moment maintenant, mais c'était pas le jeu qu'on connaît sur PC et autres. C'était vraiment une version pour la Switch. La version Bedrock de Minecraft, donc la version que tout le monde connaît, c'est la version sur PC, va arriver sur la Switch. Elle sera disponible le 21 juin. Elle sera aussi en version physique. Donc cette version qui s'appelle Better Together, ou en tout cas qui est en tout cas renommée Better Together, c'est juste pour qu'il y ait donc du cross-platform sur toutes les plateformes, pour que tout le monde puisse jouer ensemble sur Minecraft. Voilà pour ça. Donc ça peut être intéressant. Minecraft sur la Switch, j'ai envie de dire pourquoi pas. En tout cas le Minecraft PC sur la Switch, pourquoi pas. Et enfin, parlons d'un jeu qu'on suit depuis quelques mois maintenant. On vous en parle dès qu'on a des news, et c'est le cas maintenant, Octopath Traveler.
Alors oui, encore une fois, on a des nouveautés concernant Octopath Traveler. Ça m'énerve, parce que ça me donne trop envie d'y jouer, en fait. J'ai fait la démo, je l'ai dévoré. Bon, une, deux heures, mais bref, c'est assez court. Mais oui, on a deux nouveaux personnages, je crois que c'est les derniers, si je dis pas de bêtises, qui sont leakés. C'est-à-dire, on a droit maintenant à une claire. Alors les gens diront que c'est une prêtresse, moi j'appelle ça une claire parce que elle fait pas que du soin en fait, et un érudit. Alors évidemment on se retrouve avec de nouveaux gameplay, c'est à dire que Ophelia, la claire, donc pourra faire beaucoup de quêtes subsidiaires. Qu'est ce que j'entends par là? C'est en fait elle va pouvoir guider les gens sur le chemin de la voie sacrée et tout ça. En gros, si on va dire un enfant a perdu sa mère, ça devient une quête subsidiaire, il faut retrouver sa mère. Ça paraît long dit comme ça, mais je pense que en fait ça sera fait pour que l'histoire d'Ophelia avance sur ces interactions là et en plus en combat elle pourra invoquer les gens qu'elle guide. Donc si on est en train de guider un gros soldat qui tape très fort, ça peut être fun. De son côté, l'érudit s'appelle Cyrus et Cyrus pourra scruter les PNJ afin de découvrir des informations cachées. C'est-à-dire qu'en fait, il pourra connaître l'âge des gens, il pourra avoir par exemple je dis des conneries comme ça, mais leur groupe sanguin, ce qu'ils font de leur journée, ce qu'ils aiment faire. Et apparemment, il y aura pas mal de dialogues qui joueront sur ces interactions. Donc je pense que l'histoire de Cyrus pourra être vraiment très développée sur ce point-là. Par contre, on a aussi d'autres infos concernant le jeu en lui-même. On sait maintenant que les 8 personnages ont une histoire, on va dire, d'eux-mêmes, mais se rencontrent. Ce que j'entends par là, c'est que on va pouvoir faire notre groupe d'aventuriers avec 4 des 8 héros qu'on connaît maintenant, genre la danseuse, le voleur, tout ça. Et apparemment, il y aura des interactions inter-histoires, donc je sais pas ce que ça va donner, ça peut, j'espère, être très bien. On peut aussi refaire son groupe quand on veut, si on rencontre par exemple un 5e personnage, on va dire clé, entre les 8 personnages, tout ça. Donc je pense qu'il y aura pas mal de choses, je pense que le RPG, là, ça va donner, mais d'une force. C'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser la chasseuse, je vais jamais y arriver, chaque semaine je vais me planter dessus. Donc la chasseuse pour capturer des monstres, pour les lancer en combat, puis ensuite enchaîner avec l'alchimiste qui pourra faire des potions pour baisser les stats des ennemis ou alors se soigner. Puis ensuite on va pouvoir taper avec le guerrier et enfin charmer les gens avec la danseuse. Enfin ça va être juste trop bien, hein. Heureusement que c'est la même team qui a fait Bravely Default, parce que sur le coup je commence à enfin voir le lien, à part le fait que ça soit un RPG. Ça va donner, ça sort dans 2 mois, j'en peux plus.
Donc le 13 juillet, et à noter que c'est une exclusivité Nintendo Switch.
Ouais, tant mieux, parce que sur Nintendo, la Nintendo livre de très bons RPG, tout simplement.
Pour terminer sur ces news, et non pas la chaîne d'infos, lol, je vais vous parler du Nintendo Switch Online. On a des infos un petit peu plus poussées. C'est, alors pour rappel, le Nintendo Switch Online a été présenté très brièvement lors de la présentation de la Nintendo Switch, donc il y a 1 an et demi maintenant. Nintendo Switch Online, on y a accès tous là actuellement gratuitement depuis quelques temps pour qu'on le teste, pour que Nintendo fasse ses tests de son côté, mais il faut savoir que normalement c'est quelque chose de payant et ça va devenir payant à partir de cet automne, plus précisément même à partir du mois de septembre si je me trompe. Alors, c'est le prix de l'abonnement. En fait, ce qu'ils veulent faire, pour cette histoire d'abonnement, ils essayent de s'aligner sur ce que fait déjà PlayStation avec le PSN, si je me trompe pas, et Microsoft avec le Xbox Live, si je me trompe pas non plus. Parce que, de leur côté, il y a aussi ces abonnements mensuels pour, où on paye pour jouer en ligne. Donc Nintendo ne fait que la même chose. La seule différence, c'est le prix. C'est un prix vraiment beaucoup moins cher pour Nintendo. Pour l'information, c'est un prix qui avait déjà été annoncé il y a un moment. Un abonnement de 1 an pour un compte, c'est 20€ chez Nintendo. Ça revient à moins de 2€ le mois. Donc c'est rien, c'est pas grand-chose. Après, si on veut s'abonner qu'un mois, c'est 4€. Si on veut s'abonner 3 mois, c'est un lot de 8€. Voilà. Par contre, et c'est là où il joue très fort, si on a plusieurs comptes, même sur des consoles différentes, on peut prendre ce qu'on appelle un abonnement familial qui va coûter 35€. C'est-à-dire que pour 35€, on a notre abonnement pour 8 comptes. Donc en gros, ça nous revient moins cher de prendre cet abonnement-là que de prendre, par exemple, 2 abonnements individuels. Donc là, je fais un appel et un coucou à mes copains et à mes amis. Ne vous faites pas de bill, je vais le prendre, ne le prenez pas. Comme ça, au moins, il sera déjà payé, vous serez tranquille pour 1 an. Voilà, ceci est un message subliminal. Ce qu'on a d'autre dans ce Nintendo Switch Online, donc ça va nous permettre de jouer en ligne. Mais ce qu'on a de plus avec cet abonnement Nintendo Switch Online, parce que c'est bien, hein, on va pas juste pouvoir jouer en ligne, sachant qu'on va jouer en ligne donc à Splatoon 2, à Mario Kart, à Super Smash Bros. Quand il va arriver dans pas longtemps, etc. etc. Tous les jeux en ligne devront obligatoirement passer par le Nintendo Switch Online, on n'aura pas le choix. En gros, pour se connecter à Internet, on aura notre abonnement Nintendo Switch Online, ce sera comme ça. Mais on n'aura pas que ça. L'idée, c'est vraiment d'avoir des bonus à côté. Donc, on va avoir des jeux rétro. Donc, parce que Nintendo aime bien miser sur la nostalgie. On le connaissait déjà avec le Virtual Console par le passé. Et là, dès l'ouverture de cet abonnement, on aura accès à 20 jeux NES, dont certains ont déjà été communiqués. C'est-à-dire qu'on aura accès à Soccer, à Tennis, à Donkey Kong, Mario Bros, Super Mario Bros, Balloon Fight, Ice Climber, Dr. Mario, The Legend of Zelda et Super Mario Bros 3. Ça, c'est les 10 premiers qui ont été leakés. Il y en a 10 autres qui seront annoncés annoncé plus tard. Ces jeux-là auront des fonctionnalités en ligne, et ça c'est inédit pour ces jeux-là. Ça veut dire qu'on va pouvoir y jouer à un écran splitté à distance avec quelqu'un d'autre. Donc pour ces jeux rétro, voilà, ça peut être intéressant. Je pense que ça peut aider aussi ceux qui veulent speedrunner dessus, voilà, pourquoi pas. On aura aussi, et très bonne nouvelle, un support cloud, c'est-à-dire qu'on pourra stocker nos sauvegardes beaucoup plus facilement où qu'on soit. Par exemple, je suis sur une Nintendo Switch, on va appeler la A, la Nintendo Switch A. Je change de lieu, voilà, je vais sur un autre lieu, il y a une Nintendo Switch B. J'aurai juste à me connecter à mon compte dessus et je récupérerai toutes mes sauvegardes. Et ça, c'est une super bonne nouvelle, ça nous évite de nous casser la tête à savoir où est notre sauvegarde, patati patata. C'est vraiment très très bien. Enfin, cette souscription au service va nous donner bien sûr accès à l'application Nintendo Switch Online qu'on a déjà pour certains sur nos smartphones, et on aura notamment des fonctionnalités spéciales pour les jeux compatibles. Pour le moment, on n'a que du Splatoon 2 sur cette application. On attend donc plus de compléments sur cette application qui est plutôt légère pour le moment. Donc vivement que cet abonnement sorte en fait. Donc le lancement du Nintendo Switch Online, c'est pour septembre 2018. Et on devrait en plus avoir des offres spéciales sur les produits Nintendo, donc en gros des promos ou sûrement des wallpapers, des écrans de chargement, enfin des trucs comme ça, on ne sait pas pour le moment, mais c'est ce qu'ils avaient fait par le passé pour 3DS, alors sans abonnement certes, mais voilà, c'est le genre de promo qu'on pouvait avoir. Voilà pour ce Nintendo Switch Online, je pense que je n'ai rien oublié. On passe aux sorties jeux vidéo de la semaine avec ce mardi 15 mai, allez je te le laisse celui-là, il est pour toi Yaki.
Oui, mardi 15 mai est sorti Wizard of Legend et c'est un putain de jeu trop cool of the dead. En fait, c'est un mélange entre un beat'em all et un roguelike. Donc en fait, on incarne un puissant magicien qui peut lancer beaucoup de sorts que vous pouvez augmenter, que vous pouvez acheter. Enfin bref, il y a tellement de choses à faire. Ce jeu est juste génial. Il est super bien fait. Il demande beaucoup de réflexes. C'est un jeu assez nerveux et par contre, j'ai un petit bémol sur la Switch. Il lag. Voilà, ça m'énerve.
Donc ce
non,
jeu...
c'est un très bon jeu.
Ouais, il est sorti sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Anne, pareil, la même date, sur PC, PS4, Xbox One, c'est un jeu d'aventure en 2D qui nous plonge dans la peau d'une fillette, Anne, ou une fille tout court, j'en sais rien, une gardienne de l'ordre dans le monde de Forgotten Realm. Elle va alors tenter d'empêcher la montée d'une rébellion qui pourrait la priver de retrouver le monde des humains.
Mardi aussi, le 15, déjà sorti sur PS3 et Vita il y a plusieurs années, Dragon's Crown fait son grand retour. Cette version supportera le 4K, son OST entièrement réenregistré avec un orchestre symphonique et offrira du crossplay entre les différentes versions. Ce jeu est très chouette si vous aimez les vieux jeux d'arcade, parce que sans déconner, il y a pas mal de choses à faire et puis on s'est bien amusé à 4 dessus.
Un autre jeu sur Nintendo Switch, toujours ce mardi, Battle Chaser Night War, donc version Switch, c'est du RPG, inspiré donc par les plus grands classiques, avec la découverte de nombreux donjons, du combat au tour par tour, présenté dans un format de JRPG très classique. C'est une histoire très riche, centrée sur l'exploration du monde. C'est un jeu très 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 intéressant.
Mercredi 16 mai, Mecha Vilain sur PC. Alors en gros, le but c'est d'incarner un monstre de film d'horreur et puis il va falloir construire un manoir, élever des sbires, préparer des pièges. En fait, il faut isoler les victimes que vous voulez manger et enfin il faut passer à l'action, c'est-à-dire il faut se battre, il faut... C'est assez bizarre, c'est un mélange entre du Dungeon Keeper et du Prison Architect. C'est un très bon jeu de stratégie, mais pour une fois, c'est vous le vilain.
Jeudi 17 mai, donc aujourd'hui, sur PC, Far Lone Sales, c'est un jeu d'aventure automobile qui est très improbable en fait, et même les véhicules sont improbables. On voyage à travers un océan qui est devenu désert, et on doit suivre les traces d'une civilisation éteinte, autrefois florissante. Et grâce à une série de barrages routiers, ce qu'ils appellent comme ça, et par des conditions météo très dangereuses, on va devoir garder notre véhicule, navire, en marche, pour découvrir où ce voyage va nous mener, et surtout si on est le dernier de notre genre. C'est un jeu qui éveille vraiment ma curiosité, qui peut être plutôt sympa et avec plein d'énigmes. Voilà.
Aujourd'hui aussi, jeudi 17 mai, Fox and Forest, qui sort sur PC, PS4, Xbox One et sur Switch, c'est un jeu d'action et de plateforme en 2D qui nous renvoie autant des titres en 16 bits. Ça fait vraiment très, très SNES, c'est assez particulier, j'aime beaucoup. Et apparemment, la particularité de ce jeu réside dans le fait que vous avez le droit à deux changements de saison par niveau. Ça me rappelle quelque chose, ça, du renard et du changement de saison, hein. Bref, enfin, en fonction évidemment du changement de saison, ça changera complètement le niveau et l'environnement sur lequel on évolue, donc petit jeu, on va dire, qui peut être sympathique.
Vendredi 18 mai, sur Nintendo Switch, Little Nightmare Complete Edition. Donc, opéra avant nommé Hunger, sous la coupe de Tarsier Studio, Bandai a pris sous son aile ce titre qui est vraiment, donc, qui est maintenant rebaptisé Little Nightmare, et c'est un jeu qui prend place dans un univers très sombre, très inquiétant. On y incarne une fillette avec une espèce de blouson jaune qui est captive d'un très très grand navire avec plein de créatures affamées. C'est un jeu qui fait un peu flipper, mais qui a le mérite de jouer sur le suspense. C'est ouais. Vraiment, il est sympa ce jeu.
Je suis d'accord, il est vraiment sympa, mais c'est une ambiance un peu glauque.
Voilà. Mais il fait pas forcément peur.
Ouais, c'est ça. Il fait pas peur, c'est juste qu'il y a des trucs qui peuvent un peu surprendre, mais il est vraiment très chouette. Vendredi 18 mai, aussi attendu, oui et non, Hyrule Warriors Definitive Edition. Bon, on avait eu droit à Fire Emblem Warriors sur Switch, bon, ils se sont dit pourquoi ne pas remettre, évidemment, le Hyrule Warriors. J'espère juste qu'il sera quand même mieux que la version Wii U qui était complètement à chier. Quand je dis à chier, c'est que quand même les graphismes qu'on s'est tapés, les animations qu'on s'est tapés, les lags qu'on s'est tapés, j'espère ne plus voir ça sur la Switch, parce que sans déconner, c'était quasiment du foutage de gueule. Même la version 3DS était plus supportable, à dire quand même. Bref, ce jeu sur Switch réunira la version Wii U et 3DS, donc ceux qui n'ont pas fait celui sur la 3DS seront contents. Ceux qui n'ont pas fait la version sur Wii U seront contents aussi. J'espère vraiment que ça va vraiment rehausser l'estime que j'ai pour ce jeu, parce que sans déconner, ça pique.
Et il inclut en plus tous les DLC sur la version Switch, et ça c'est une bonne nouvelle.
Oui, c'est vrai.
Pour terminer, sur 3DS, et ben oui, encore un jeu qui sort sur 3DS, profitez-en, ça va arriver de plus en plus rarement. Shin Megami Tensei, le Strange Journey Redux. Donc en gros, c'est la ressortie du jeu après son 25e anniversaire. Donc c'est un des épisodes les plus appréciés de toute la licence. Donc le joueur doit cette fois-ci aller enquêter sur l'apparition d'une faille spatio-temporelle démoniaque au pôle sud. Au programme de ce remake, une belle refonte graphique, l'ajout d'un doublage intégral et un nouveau personnage inédit qui s'appelle Axel. Voilà, on a fait le tour. Alors, il y a d'autres jeux qui sont sortis cette semaine, il y en avait beaucoup. On a fait vraiment sur nos coups de cœur. N'hésitez pas à vous informer là-dessus. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission jeux vidéo. Et d'ici là, il y aura d'autres chroniques sur ivasonstudio.com. Très bonne journée, bonne soirée à tout le monde.
Au revoir.
Réécoutez ce programme en podcast sur notre site ivasonstudio.com.